France Info.
Bonsoir, la canicule, toujours, les comptes de la nation épinglés et l'exclusion peut-être d'une marcheuse anti-PMA, c'est dans les informés avec vous. Bonsoir Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com. À mes côtés également, bonsoir et bienvenue Fatima El-Ouazdi.
Bonsoir.
Résidente fondatrice de Politiquel. Invitée comme tous les mardis, Albert Zenou. Bonsoir Albert.
Bonsoir Jean-François.
Notre partenaire du Figaro. Vous êtes rédacteur en chef du service politique du Figaro. Et à mes côtés, j'ai le plaisir de retrouver Philippe Moreau-Chevrolet.
Bonsoir. Bonsoir.
Bienvenue. Président de MCBG Conseil et professeur de communication politique à Sciences Po Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Quand la canicule s'invite à l'Assemblée nationale avec un secrétaire d'État, celui de la protection de l'enfance, Adrien Taquet, hué lors de la séance des questions au gouvernement parce qu'il ne porte pas de cravate, écoutez bien.
À ce point important de notre population, de par sa récurrence probable...
Continuez, monsieur le ministre.
On parle de sujets un peu sérieux. Si vous pouviez. Je ne sais pas en quoi ma tenue pose problème.
Vous savez, continuez,
vu la chaleur,
s'il vous plaît.
Vu la chaleur, il faut
on
adapter.
On ne s'interpelle pas, s'il
faut
vous
savoir
plaît.
Adapter.
Pour répondre à la question de madame Iboura.
Bon.
On ne s'interpelle pas.
Albert Zenou, pourquoi ces sifflets, selon vous, dans l'hémicycle?
Une tradition à l'Assemblée nationale, c'est que les ministres et les parlementaires sont cravatés. Contrairement à moi.
Contrairement à vous et contrairement à Philippe Moreau-Chevrolet également sur le plateau des informés.
C'est la tradition républicaine qui veut ça, parlementaire française qui veut ça. Et on a vu déjà par le passé, c'était Jack Lang de mémoire qui s'était fait huer parce qu'il avait un col Mao.
François Ruffin.
Qui était venu avec son maillot de foot.
Ouais.
Et puis les femmes aussi pendant un certain temps.
Il y a eu des scandales ou des étés. Je pense à Jeannette Bougrat, je pense à d'autres ministres qui sont venus en fait les épaules dénudées, alors que le règlement de l'Assemblée nationale précise qu'une femme ne vient pas les épaules dénudées, qu'il y a un espèce de dress code à l'entrée de l'hémicycle qu'on doit garder. Moi, j'ai le souvenir, parce que je travaillais à l'Assemblée nationale, que par exemple, mon ancien employeur, s'il avait le malheur d'arriver sans cravate, il y avait donc le personnel de l'Assemblée qui interdisait l'entrée, en fait, qui vous propose, ils ont même des cravates à disposition pour que vous les portiez. Donc tout est fait en fait pour que le règlement à l'Assemblée nationale soit respecté, en tout cas par les personnes qui travaillent.
Alors après ce petit échange dans l'hémicycle, les caméras de LCP se sont mises à zoomer sur tous les ministres ou élus sans cravate. Yasmina Jaffar, c'est François de Rugy qui a initié ce mouvement en expliquant que cela permettait de ne pas pousser la clim à fond dans les bureaux. Mais de quoi est-ce qu'on parle ?
Exactement. Agnès Buzyn aussi indique, depuis qu'elle est sur le pont, donc depuis quelques jours quand même, qu'il faut retirer la cravate pour pouvoir, parce que la climatisation participe au réchauffement et au dérèglement climatique. Donc c'est des traditions, et là je reprends le terme que vous avez employé, monsieur Zenou, c'est une tradition, c'est vrai, mais peut-être qu'il faut revoir certaines des traditions parce que le monde est en train de changer. Et si, par exemple, aujourd'hui, monsieur Blanquer a décidé de repousser la date du brevet parce qu'il fait trop chaud, peut-être, alors dans ces cas-là, cette tradition d'examen de fin d'année, peut-être le faire en avril, parce que tout est en train de changer. Donc la cravate, finalement, peut-être une tradition obsolète au vu des enjeux climatiques qui nous attendent.
Alors Philippe Moreau-Chevrolet, le renoncement au port de la cravate, c'est un élément de communication gouvernementale ?
Oui, c'est un élément de communication, c'est plutôt malin, parce que ça met de la modernité de son côté, puis ça permet de passer un message, donc on est en train de décrypter. Le port de la cravate, c'est devenu un objet politique, au moins depuis que Bruno Le Maire y a renoncé, souvenez-vous, dans les débats de la primaire de droite. Donc c'était... Lui, le problème de Bruno Le Maire, c'est que même quand il ne porte pas de cravate, il donne l'impression d'en porter une. Effectivement, c'est devenu un marqueur politique et c'est une bonne opération de com' pour le gouvernement. Bravo, on a envie de dire bravo.
Alors, on va essayer de ne pas prendre le sujet canicule par le petit bout de la cravate. Après cet épisode, le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, lui, a interpellé le Premier ministre Édouard Philippe.
Les premières victimes sont les personnes issues des couches sociales les plus défavorisées, les individus les plus vulnérables. Lors d'un pic de pollution, elles ont 5 fois plus de risques de mourir. Monsieur le Premier ministre, des actions fortes s'imposent. Accorder la gratuité des transports en commun. Voilà une mesure concrète pour diminuer la circulation automobile, pour diminuer la pollution de l'air. Cette mesure peut être immédiate.
La normale est en train de devenir le normal, conséquence du réchauffement climatique.
et que nous devons donc, au-delà des mesures d'urgence, elles sont légitimes, mais elles ne sont pas suffisantes, nous adapter, adapter notre société, adapter notre bâti, adapter notre urbanisme, adapter notre architecture, adapter nos services publics, à faire en sorte que nous puissions être à la hauteur de cette transformation qui est déjà là et qui va continuer à produire ses effets.
Alors beaucoup de choses dans cet échange. D'abord, Yasmina Jaffar, la gratuité dans les transports les jours de canicule, c'est une bonne piste ?
Pas forcément. Peut-être que l'idée, et là je fais référence à ce que disait Edouard Philippe à l'instant, peut-être mettre les transports en commun et les bus à l'heure de ces enjeux. Donc c'est très compliqué parce que si on met la climatisation dans les bus, 95% des bus à Paris n'ont pas la climatisation. On revient sur ce que disait Agnès Buzyn par rapport à la cravate, donc on se tire. Enfin c'est un peu compliqué finalement de mettre la clim partout alors qu'elle fait du mal. Vivre à l'américaine, un Américain ne peut pas vivre sans climatisation.
Les transports sont déjà surchargés, surchauffés.
Hein. Ils sont oui totalement et il faut les mettre absolument dans cette modernité, mais comment être moderne et ne pas changer nos modes de vie. Il faudrait en fait changer nos modes de vie pour pouvoir répondre à ces enjeux. Et là, c'est là où l'État paraît un petit peu dépassé.
Albert Zenou, le député Chassaigne est sur l'immédiat et le Premier ministre Philippe, il est sur la longue distance, c'est ça en fait, hein ?
Oui, on oppose à la fois d'un côté la canicule et de l'autre côté les changements dus au réchauffement climatique. On en est qu'à un épisode de quelques jours de canicule. Hein. Je trouve qu'on en fait nous-mêmes, les journalistes, énormément sur la canicule, énormément sur les conséquences.
Je trouve qu'on devrait en faire encore plus.
Je pense que c'est parfait, il fait chaud. Pour l'instant, on a l'impression
il fait chaud,
que
mais on est au mois de juin.
Que l'exécutif a peur du renouvellement de la canicule 2003 quand ça avait été pris un peu par-dessus la jambe et on n'avait pas vu l'importance de la situation. Donc par précaution, l'exécutif en fait beaucoup là-dessus sur la prévention. Ouais. Alors c'est très bien sûr qu'il faut en faire. J'ai l'impression qu'on en fait peut-être un peu beaucoup.
Je pense pas qu'ils aient peur.
Yasmina Jaffar, gardez vos arguments sous le coude. Justement, c'est un peu la question du soir. Est-ce que les ministres en font trop ? Les journalistes aussi, au passage, puisque vous l'exprimiez à l'instant, Albert Zenou. Tout d'abord, nous marquons une pause. 20h10 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Thomas Benesch.
C'est une première dans l'Hexagone. La justice estime que l'État a fauté dans sa gestion de la pollution en Île-de-France entre 2012 et 2016. C'est le tribunal administratif de Montreuil qui le dit aujourd'hui. Il était saisi par une mère et sa fille. Elles ont souffert de problèmes respiratoires alors qu'elles vivaient près du périphérique parisien. Après de violents orages la nuit dernière dans le Calvados, le maire de Lisieux va demander le classement de sa commune en état de catastrophe naturelle. Elle a subi des inondations et coulé debout. Le trafic ferroviaire est interrompu depuis aujourd'hui et pour la journée de demain entre Lisieux et Caen. Un entretien téléphonique aujourd'hui entre Emmanuel Macron et son homologue iranien Hassan Rouhani. Le président français souhaite éviter une escalade dangereuse des tensions entre le régime de Téhéran et les États-Unis. Les deux pays entretiennent des relations houleuses sur le dossier du nucléaire et à la suite également d'attaques de pétroliers dans le Golfe. Le mondial féminin de football, l'Italie décroche son ticket pour les quarts de finale après sa victoire 2-0 sur la Chine. À 21h, les Pays-Bas affronteront le Japon.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons revenir sur cette décision, cette condamnation du tribunal administratif de Montreuil qu'évoquait à l'instant Thomas Benesch, mais Fatima El-Wazdi, poursuite de l'échange à l'instant, est-ce que nous en faisons trop ?
Journaliste, je ne sais pas, je pense que c'est un sujet d'actualité, forcément ça intéresse les Français, donc il faut en parler, il faut que ce soit le reflet. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'échange entre Édouard Philippe et le député Chassaigne, c'est que finalement, le Premier ministre se projette dans une vision long terme en se posant les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on est face à une transition écologique qui a lieu. On a un réchauffement climatique qui est en cours, mais on n'a pas encore les infrastructures qui nous permettent de répondre à ces bouleversements. Que ce soit les transports, sachant qu'on convient bien que les transports aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés à accueillir des personnes sous forte chaleur, ou même, enfin je parle juste à Paris, après je ne connais pas la réalité dans les autres départements, mais en tout cas à Paris, c'est compliqué, les RER sont bondés, les métros sont bondés, il n'y a pas de climatisation, les bus c'est sous 30 degrés à Paris, enfin au-dessus de 30 degrés.
Tout n'est pas climatisé. Voilà.
C'est très compliqué de se déplacer, donc faire la gratuité des transports c'est pas une solution. À la rigueur, pourquoi pas un ticket comme on a eu dans les pics de pollution où on a un forfait à 3 euros par jour, on peut se déplacer partout dans tout Paris, ça peut être une solution. Mais la gratuité a un coût pour le contribuable, un coût pour la société également. Mais en fait, il faut se projeter de comment on construit des bâtiments qui soient plus écologiques, qui permettent aussi d'avoir des meilleures balances thermiques, parce qu'aujourd'hui on a des bâtiments, des immeubles qui sont des passoires en fait. fait. Donc on peut avoir toute la climatisation du monde qu'on veut, en fait ce sera du gaspillage si on n'a pas les infrastructures qui sont adaptées, les transports, avoir davantage d'arbres en fait en ville, parce que mine de rien si on n'a pas d'arbres,
l'air ne se rafraîchit pas.
En fait tout est à faire. Donc je veux bien en parler, c'est super intéressant, mais il faut peut-être proposer des choses et des solutions.
Philippe Rochevrolet, est-ce qu'il a raison, André Chassaigne, quand il explique que les couches sociales les plus défavorisées sont les plus exposées?
Oui, il expose quelque chose de vrai, et puis ça montre qu'il y a un clivage en fait qui est quand même toujours là, qui est que on a fait de l'écologie un produit de luxe parce qu'on l'a associé à des taxes comme la taxe carbone, et que du coup pour une partie de la population, tout ce qui va être de l'ordre du règlement écologique va être de la contrainte ou de l'argent dépensé en plus. Donc oui, il y a un vrai problème à ce niveau-là, qui est que l'écologie, ça concerne pas tout le monde, parce qu'on en a fait un produit, encore une fois, un produit de luxe. Et puis, on voit bien le décalage, comme vous disiez, entre du court terme et du long terme. On voit bien qu'il y a une demande de Greta Thunberg, des militants écologistes, pour des mesures maintenant. Greta Thunberg, c'est la jeune femme, jeune fille qui a 16 ans, qui parcourt le monde avec son bâton de pèlerin pour parler du réchauffement, de la crise climatique. Oui. Elle dit la maison brûle. Donc il faut prendre des mesures maintenant. Et ce que répondent les politiques, c'est oui, d'accord, ça brûle, mais on va d'abord repenser l'architecture du bâtiment, puis après on éteindra l'incendie. Et c'est là où il y a un manque de connexion entre deux mondes, et c'est là où on a un vrai problème, parce qu'entre les deux, la décision politique se dilue, elle se perd dans des conflits d'intérêts, dans des voilà.
Alors qu'on a conscience... certains disent 2050 et d'autres répondent c'est tout de suite quoi.
Oui, et puis on a tous le sentiment aujourd'hui, c'est peut-être un effet d'optique, peut-être un effet de loupe, peut-être que le camarade du Figaro a raison, c'est peut-être du court terme. Mais on a tous le sentiment d'une urgence, d'une urgence pour nos enfants demain. Moi j'ai des enfants, je suis inquiet pour leur avenir, je commence à l'être. Parce que on est dans ce climat-là. Alors, est-ce que c'est un effet d'optique? Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas.
Oui, inquiétude partagée. Albert Zénou?
Bon, je trouve que faire tenir la politique énergétique, écologique, industrielle dans les bras d'une jeune fille de 15 ans, qui a une vision un peu particulière de la vie. Hein.
Vous elle veut pas prendre l'avion. Elle veut sceptique. Hein.
Non, c'est indépendamment de ça.
Je pense qu'on peut quand même s'interroger sur Greta Thunberg en général.
Oui, sur l'objet marketing. Oui, c'est sur cet objet.
Elle mérite de ça.
Je suis plutôt content qu'elle soit là, Greta Thunberg, parce que sans elle, on en parlerait moins.
Elle permet de conscientiser
moins bien, je pense.
Oui, parce qu'elle n'a pas le mérite de secouer le cocotier.
Oui.
Oui.
Peut-être, oui, mais en même temps, c'est pas c'est faire de cette jeune fille l'alpha et l'oméga de la lutte contre le réchauffement climatique, la porter au pinacle,
montrer
quasiment, elle est présentée comme une prophétesse, donc aujourd'hui, en caricaturant, en exagérant bien entendu, mais je trouve que c'est un peu,
emparées du sujet de cette manière-là.
Yasmine Jaffa.
Peu de personnes se sont emparées du sujet de cette manière-là.
C'est un très bel objet de communication.
Oui, c'est pour ça que j'ai appelé ça l'objet marketing, mais dans ce cas-là, comme la communication du gouvernement en ce moment, c'est utile. Il n'y a pas d'abus, c'est simplement, et je rejoins totalement Philippe Morochevrolet, il y a une inquiétude sur le long terme et une inquiétude sur l'urgent, et on peut faire les deux.
Mais c'est compliqué, on l'a bien vu, tout est remis en cause. Tout est remis en cause, tout doit être repensé. Et ça ne se fait pas comme ça. C'est compliqué.
Mais il faut le dire.
Fatima Elouazi, qui a une quinte de tout ce soir, j'espère que ce n'est pas les pics d'ozone dans Paris. écoutez, je vous propose d'écouter ce qu'a dit François Laforgue. Alors, il est l'avocat de cette mère et de cette fille qui ont déposé un recours auprès du tribunal administratif, qui a donc reconnu, c'est ce qu'expliquait Thomas Benesch, une faute de l'État, après que cette maman et cette fille vivant à Saint-Ouen ont dû, près du périphérique, ont dû déménager à Orléans à la suite de problèmes respiratoires. On écoute Maître François Laforgue sur France Info.
En fait, c'est une décision inédite dans la mesure où c'est la responsabilité de l'État est retenue pour des recours engagés par des victimes de la pollution de l'air. Et c'est la première fois en France que la faute de l'État est reconnue dans le cadre de procédures engagées par des victimes. On choisit pas l'air qu'on respire, donc nécessairement, il faut que l'État prenne des mesures afin que l'air qu'on respire soit sain. C'est une évidence, mais donc jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Et donc, j'espère que cette décision sera importante pour que l'État prenne enfin des mesures efficaces.
Alors, je précise que la demande d'indemnisation 160 000 euros de dommages et intérêts a été rejetée, mais c'est le principe qui demeure. Yasmine Jaffar, on va être exposé à ce type de procédure judiciaire à l'avenir. Hein.
Oui, il y a une forme d'américanisation. Ça rappelle un film qui avait eu un succès incroyable avec Julia Roberts, qui s'appelait Erin Brockovich, issue de faits réels. C'était un groupe de gens qui essayaient de demander à l'État réparation par rapport à des nappes phréatiques abîmées. Et pourquoi pas, c'est vrai que comme on parlait tout à l'heure de cette urgence et du fait de l'inquiétude pour nos enfants, avoir envie de prendre les choses à bras-le-corps et de demander à l'État de réagir en dehors de cette communication plutôt maîtrisée et assez réussie, mais d'avoir des effets concrets.
Fatima Elouazdi, les mesures critère de 0 à 2. Donc seuls les véhicules qui ont les vignettes de 0 à 2 seront autorisés, notamment demain à Paris, Petite Couronne, à circuler. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ?
C'est une bonne nouvelle. De toute façon, toutes les dispositions visant à réduire un peu la circulation à Paris sont des bonnes choses, dans la mesure où quand il y a un contexte où il fait chaud, les particules restent, il me semble, plus longtemps dans l'air, en suspension, surtout toutes les particules fines issues du diesel, de tout ce qui est transport, etc. Et donc ça devient un danger respiratoire pour les personnes, ne serait-ce qui travaillent à l'extérieur. Moi, je pense à tous les ouvriers de chantier qui sont exposés, les gens qui habitent à côté du périph, évidemment. Enfin, je veux dire, c'est un drame ce qui s'est passé, parce que mine de rien, habiter à côté du périph, déjà, c'est une forme d'exclusion sociale. Et en plus, d'en souffrir parce qu'il y a de la pollution en particules fines, c'est une double peine. Donc, je partage et je pense que c'est une excellente chose
Mais qui exclut de fait, et on revient à André Chassaigne, ceux qui disposent de véhicules au-delà de la vignette de Philippe Rochevrolet.
Oui, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que si on restreint la circulation à Paris pour les meilleures raisons du monde ou pour en faire un espace piéton, on va forcément marginaliser des populations qui le sont déjà. Il faut comprendre qu'on est en train de transformer Paris. C'est à la fois une très bonne chose et une très mauvaise chose, mais on est en train de transformer Paris en un EHPAD pour gens riches. Ça veut dire qu'on va peut-être mieux y vivre. Quand on aura les moyens d'y vivre, on sera certainement moins malade à terme, on aura moins de pollution, mais c'est une ville qui ne servira plus à y vivre vraiment. Oui. On ne pourra pas y travailler, on ne pourra pas s'y déplacer. Donc c'est des choix compliqués. On a une population qui vieillit aussi, il faut le dire. Donc on est en train de créer quelque part des complexités inédites. Voilà.
D'accord avec ça, Fatima El-Ouazdi ?
Je pense qu'on peut développer des formes de transport de personnes en région parisienne ou même dans des grandes métropoles aujourd'hui en France qui appliquent la multimodalité, c'est-à-dire qu'on peut prendre la voiture pour des courts trajets, mais qu'à la fin, on peut prendre le RER, le Transilien, enfin tout type de transport un peu plus propre pour se déplacer. Je veux dire, la voiture, ça ne doit pas être vraiment l'ultime solution. Enfin, je partage que c'est très difficile pour certaines personnes de se déplacer à Paris et de venir travailler à Paris. Je ne minimise absolument pas cela. Je le connais, j'habite en banlieue, donc c'est pareil pour moi. Cependant, j'estime qu'il faut savoir trouver un peu l'équilibre pour y parvenir et pour justement participer collectivement à cet effort de réduction de la pollution.
Là encore, modèle à repenser, 20h et 20 minutes sur France Info, le rappel de l'info avec Thomas Benesch.
La maire de Nantes écrit au préfet de Loire-Atlantique. Elle lui demande de faire toute la lumière sur l'intervention policière de la nuit de vendredi à samedi dernier. C'était lors de la fête de la musique. 14 personnes ont sauté dans la Loire. Un jeune de 24 ans a lui porté disparu. Les forces de l'ordre sont intervenues pour faire couper la musique. C'était lors d'un concert d'électro. En raison du mélange canicule-pollution, mise en place de la circulation différenciée des véhicules demain à Paris, mais aussi à Lyon et Villeurbanne, ainsi qu'à Strasbourg. Dans la capitale, cette procédure connaîtra de nouvelles règles. Seules les voitures munies de vignettes critères de 0 à 2 pourront rouler contre 0 à 3 jusqu'alors. Sciences Po Paris va supprimer les épreuves écrites de son concours d'entrée. L'école s'engage à également recruter au minimum 30% de boursiers. Cette réforme des admissions entrera en vigueur en septembre 2021. Ces changements interviennent en plein débat sur la mixité sociale et l'accessibilité aux grandes écoles en France. Un restaurant installé dans le sud-est de la France voit sacré meilleur restaurant du monde. Il s'agit du Mirazur à Menton dans les Alpes-Maritimes. C'est le chef italo-argentin Mauro Colagreco, triple étoilé au Michelin, qui en tient les cuisines.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Et puis il y a les écoles, doivent-elles fermer ? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation sur France Info ce matin.
Vous avez donc aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, des écoles, des collèges et des lycées qui sont dans un bon état thermique. Mais pas toutes, et pas tous, nous le savons bien. Et donc, c'est effectivement, notamment dans ce genre de cas, que l'on aura, qu'on sera en situation d'avoir à, tout simplement, à fermer l'établissement. On l'a fait. Il peut y avoir aussi des solutions intermédiaires. Vous pouvez, par exemple, avoir cours le matin, mais pas l'après-midi. Ça aussi, c'est les circonstances locales qui permettent de le déterminer.
Est-ce que vous invitez les parents qu'ils peuvent à garder les enfants ces jours-là à la maison?
Au cas par cas. Si vous habitez en Bretagne, vous n'avez aucune raison de faire ça et je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore.
Albert Zenou, je vois sourire. Cas par cas, c'est la réponse du ministre. Hein.
Oui, ça c'est le règne du pragmatisme. Donc il a raison cela. Donc ça, tout doit se faire au cas par cas. Bon, moi je suis toujours un peu étonné de voir qu'on en fasse autant sur ces épisodes. Alors ce qui est un peu paradoxal, c'est que les épreuves du brevet sont reportées. C'est lundi, mardi.
Oui, donc
l'épisode sera normalement sera terminé. Oui. Donc je trouve ça pas mal. Ma mise en fond déjà passé brevet. Donc
c'est une mesure de bon sens. Je trouve ça très intéressant.
Je pense que pour les adolescents, c'est vrai que c'est compliqué.
C'est vrai qu'il y a des écoles. Tout à l'heure, vous parliez d'endroits pas du tout organisés pour accepter une telle chaleur. Il y a des on a 14 ans quand on passe cet examen et c'est un examen important au même titre que le bac peut l'être un peu plus tard. Et on a pas envie de voir des enfants s'effondrer dans une espèce d'établissement étrange. Donc c'est une mesure de bon sens. Au-delà de toute forme de communication où il faut essayer de plaire à un maximum de gens, je trouve que c'est une réaction logique.
Allez, au cas par cas, on va dire ça comme ça. Et puis les temps et les mœurs évoluent, hein, on le dit, on le redit. Une vidéo a fait un petit peu de viralité, de bruit sur le net. Une archive de l'INA que vous avez sans doute vue. Elle date d'août 1975, un reportage qui s'écoute à la radio aussi, de FR3 Nord Picardie, les bons conseils en cas de grosse chaleur.
Qu'est-ce qu'on peut bien faire pour se rafraîchir? Mais au fait, dans la région, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud?
On vend des vitelles, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, on en boit quand même. Habituellement, on en boit une, on en boit deux. Bah, maintenant, on en boit trois ou on en boit quatre, quoi.
Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière?
Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière.
Mais à force d'en boire de la bière, et surtout s'il continue à faire aussi chaud, on se demande si, comme en 1959, eh bien, il ne va pas nous en manquer. Il y a des stocks et les livreurs continuent leur tournée. Donc, cette année, malgré la chaleur qui persiste et qui incite à boire, les gens du Nord ne manqueront pas de leur breuvage préféré. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée.
Allez, allô, hein.
Santé, hein.
Santé, hein. Aïe, 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 ça va faire du bien, ça.
Voilà, à la bonne santé. Avec Kevin Bodreau, on s'était demandé tout à l'heure en régie comment est-ce qu'on peut découper ce reportage. En fait, non, on l'a laissé volontairement en entier. Philippe Moreau-Chevrolet, une bonne bière pour se rafraîchir, impensable aujourd'hui.
Non, c'est impensable aujourd'hui. Ce serait évidemment, il est interdit de faire l'apologie de l'alcoolisme à la télévision, donc ce serait pas possible. Cela dit, il y a quelque chose de bien à propos de la bière, comme qui a été vu récemment scientifiquement, c'est que ça a autant d'efficacité comme antidouleur que le paracétamol, par exemple. Donc la prochaine fois que vous avez une migraine, réfléchissez-y. Peut-être que la meilleure solution, c'est une bière.
Oui, Fatima El-Ouazdi,
à boire avec modération, ce qu'on dit à chaque fois maintenant.
Oui, beaucoup de modération, il faut le préciser. Fatima El-Ouazdi, vous jugez nécessaires toutes les préconisations entendues depuis le week-end?
Oui, moi je vois des postes de mairie, de région, du président, de partout, mais en fait de s'hydrater, de s'abriter. Je trouve que c'est bien de prévoir un peu plus les choses, parce que quand même en 2003, il y a quand même eu un épisode un peu dramatique où 15 000 personnes sont décédées, parce que justement on n'a pas fait assez de prévention, et donc on peut pas reprocher le trop de prévention. En fait, je préfère qu'il y ait trop de prévention et qu'on minimise au maximum le risque, plutôt que justement on se dise on a connu ça par le passé. C'est toujours bien de faire des rappels. Je trouve que l'être humain apprend par la pédagogie, et la pédagogie c'est de la répétition.
Albert Zénou, quel chemin parcouru depuis ce reportage de nos amis de France 3, FR3 à l'époque, Nord Picardie, et aujourd'hui avec ce principe de précaution tous azimuts.
Oui, là vous me mettez sur sur un sujet qui m'est cher. Oui, effectivement, le chemin est long ceci dit, c'est vrai que ce reportage est assez incroyable. Aujourd'hui, on pourrait pas le passer, on l'entendrait pas.
C'est une pépite.
C'est une pépite. Mais il n'empêche que ce devoir maintenant, cette exigence de précaution à tous les niveaux, il y a quelque chose qui altère, alors je veux dire des grands mots, mais qui altère un peu la liberté. Et donc, moi qui suis un épris de liberté, je trouve que il faut laisser aussi une part de responsabilité à chacun. Alors c'est vrai qu'il faut faire de la précaution, c'est bien, mais rappeler qu'on doit boire quand on a chaud, qu'il faut s'hydrater. Non, je sais, non mais j'exagère, je caricature, bien entendu.
Et on est libre quand on est renseigné.
Oui, mais bien sûr. Mais il faut apporter une voix nouvelle quand même, une voix différente.
Vous trouvez que ça va trop loin? Vous pensez qu'il faut être, informé, Yasmina Jaffar?
Oui, très. Sur des épisodes comme cela, vous avez employé le mot rappel et Roselyne Bachelot doit s'en rappeler au niveau des vaccins. Là, c'était trop. En effet, ça a été trop de précautions. Mais aujourd'hui, il faut renseigner les gens parce que les épisodes comme celui-là, on va les connaître tous les 4 ans d'ici 2050. Donc, il y a une accélération totale et je pense qu'on n'est pas encore suffisamment renseigné.
Allez, les ministres ont-ils trop fait? C'est la question que nous poserons à la reprise dans quelques minutes après le rappel de l'info et après la météo sur France Info pour les informer. À tout de suite.
Simone a 94 ans. Elle est en bonne santé, mais il y a des choses qu'elle ne peut plus faire. Sa fille Aude passe chez elle tous les soirs après le travail pour lui faire ses courses et vérifier que tout va bien. Un jour, elle décide enfin d'appeler Petit-Fils. Grâce à Petit-Fils, une auxiliaire de vie professionnelle vient chaque jour chez Simone lui préparer son dîner et passer la nuit avec elle.
Petit-Fils, l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel, -fils.com.
Chérie, t'es prêt à reprendre des couleurs?
Oh que oui!
Alors on y va. Maillot, lunettes, crème solaire.
Ok.
Les billets de train.
Prêt.
La réservation d'hôtel.
Y avait plus d'encre pour imprimer.
Mais je t'avais dit de prendre le forfait HP Instant Ink.
L'abonnement de ta sœur pour imprimer gratuitement jusqu'à 15 pages par mois?
Bah oui, HP Instant Ink. Tu imprimes gratuitement jusqu'à 15 pages par mois et les cartouches sont livrées avant qu'on soit en panne.
HP Instant Ink, le premier forfait d'impression sans engagement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hp.com/instantink.
Il fait chaud, le rappel des prévisions météo avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
65 départements en vigilance orange canicule. Cette nuit, le thermomètre sera trop élevé. 15 degrés à Saint-Brieuc, c'est vrai, mais 20 degrés à Tours, Dijon, 22 à Paris, Lyon et Toulouse, 25 à Nice. Demain après-midi, 23 degrés à Cherbourg, 28 à Lille, 33 degrés à Rennes, 35 à Paris, 38 degrés à Nancy et à Nîmes, 39 du côté de Bordeaux, de Lyon. On ira jusqu'à 40 degrés à Nevers, Limoges, Grenoble, 41 à Clermont-Ferrand. Côté ciel, beaucoup de soleil. Quelques exceptions. Le matin, des nuages bas sur le Pays Basque et l'extrême nord. Sur la Bretagne et le Cotentin, après les orages de la nuit, encore des nuages et quelques averses orageuses. Jeudi et vendredi, on attend le pic de chaleur avec souvent 37 à 42 degrés, localement un peu plus. Ça s'arrangera progressivement par le nord-ouest à partir de dimanche avec l'arrivée d'air moins chaud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
h 30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La canicule qui s'installe en France, restriction de circulation demain à Paris, dans la Petite Couronne, ainsi qu'à Lyon et Villeurbanne, où seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à rouler. Le système sera mis en place à Strasbourg jeudi. 65 départements, les deux tiers de la métropole, sont désormais en vigilance orange. En Normandie, de violents orages ont touché le Calvados la nuit dernière, entraînant d'importants dégâts, une interruption partielle de la liaison ferroviaire entre Paris-Caen et Cherbourg. Le maire de Lisieux va lui demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour sa commune. Et puis au nom du principe de précaution, le maire de Gières en Isère, Pierre Véry, a lui décidé de fermer les écoles de la commune en raison de la canicule. 39 degrés annoncés après-demain, 38 vendredi. Les écoles de Gières seront donc fermées pendant deux jours. Question de prudence, explique le maire.
Nous ne sommes pas en capacité d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions, donc je préfère m'employer à assurer un principe de précaution et de mettre les enfants, ils seront mieux chez eux au frais qu'à l'école en pleine canicule. Se pose la question de la garde des enfants. Moi j'estime que les parents devraient pouvoir quitter le travail. Pourquoi ne pas mettre en place un congé canicule? C'est la SCPE qui le suggère et je pense que ça pourrait être une très bonne initiative. Ces épisodes de canicule vont se reproduire et nous voyons qu'ils arrivent de plus en plus tôt. Donc il faut travailler autour de la résilience de nos territoires pour nous adapter. Mais nous, les élus, nous ne pouvons pas tout faire. Les enfants seront mieux au frais plutôt qu'à l'école. Nous ne sommes pas en capacité de les accueillir dans de bonnes conditions.
Ah, le maire de Gières en Isère, Pierre Véry. 5 suspects âgés de 19 à 39 ans. Garde à vue dans l'enquête sur les attentats meurtriers de Trèbes et de Carcassonne dans l'Aude. C'était en mars 2017. Les suspects pourraient avoir aidé le terroriste à se procurer son arme. Les attaques avaient été revendiquées par l'organisation État islamique. Elles avaient fait 4 morts. Des gâteaux, des biscuits, des bonbons, du sirop ou des sodas. Les enfants enfants dès 4 ans et même avant absorbent beaucoup trop de sucre, alerte ce soir l'ANSES, l'agence sanitaire qui dévoile de nouveaux repères alimentaires. Et puis la contre-attaque de Boris Johnson, le favori pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur britannique, défend désormais une sorte d'accord avec l'Union européenne sur le Brexit, tout en reconnaissant avoir besoin de la coopération de Bruxelles en cas d'échec. Emmanuel Macron s'est lui entretenu par téléphone avec le président iranien Hassan Rouhani, le chef de l'État français qui veut éviter une escalade dangereuse des tensions dans la région. Il aura d'autres échanges sur la question du nucléaire iranien en marge du G20 d'Osaka cette semaine au Japon. Le mondial féminin de football, l'Italie qualifiée pour les quarts aux dépens de la Chine. Victoire 2-0 en attendant. Pays-Bas, Japon à 21h.
20h, 21h, France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Et les experts Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice du site laruchemedia.com, Fatima Elouazdi, présidente fondatrice de Politiquel, Albert Zenou, le rédacteur en chef du service politique du Figaro, et Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil. Vous avez votre verre d'eau, c'est bien.
Oui.
Et professeur de communication politique à Sciences Po Paris. La question est posée ce soir à propos de la canicule. Les ministres en ont-ils trop fait ou en font-ils trop? Christian Jacob, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et probable futur patron du parti sur Europe 1 ce matin.
Je pense que les chefs d'entreprise y pensent, ce sont les ministres, hein, objectivement. Quand on travaille dans le bâtiment, on sait bien les conséquences qu'il y a sur de très fortes, des très fortes chaleurs, ou en plein air, y a des conséquences évidentes. Donc, je ne suis pas persuadé que, bon, les ministres fassent pas un peu de zèle dans ce cadre-là. Mais en tout cas, il y a un rôle de prévention qui est indiscutable.
Excès de zèle, Albert Zenou.
Je ne sais pas si c'est un excès de zèle. En tous les cas, il y a une peur de ce qui s'est passé en 2003 et tous ont en tête, comme au moment du sang contaminé. Enfin, après des épisodes comme ça qui ont marqué et les politiques et l'opinion. Il s'agit de d'éviter absolument le retour d'une canicule qui ferait des dizaines de milliers de morts. Donc pour cela, les ministres, les exécutifs en général, en fait beaucoup. Il en fait sans doute un peu trop, mais bon. C'est comme ça.
En effet, là, c'est un travail d'opposition. Monsieur Jacob est en lice aussi pour être à la tête des LR, donc il faut aussi faire ce travail.
Il invoque le bon sens, hein. Il parle des personnes qui travaillent dans des zones de chaleur, qui savent déjà au fond, qui sont au courant.
Mais le bon sens n'a pas forcément ce sens-là, parce que on est toujours obligé, en effet, vous avez raison, de répéter des choses qui sont totalement évidentes. Il y a quand même des gens qui font du footing à midi quand il fait très chaud. Et on les regarde, on se dit, mais où est le bon sens?
Il y a plein de pays où il fait très chaud, où des gens travaillent, continuent à travailler. Des épisodes de canicule.
En Allemagne, au-dessus de 35 degrés, on arrête de travailler, c'est comme ça. Bon, on n'a pas tous les mêmes lois et les mêmes droits. Il y a ici le droit de retrait, par exemple, mais ça impute aussi un retrait sur salaire, etc. Et c'est à l'appréciation du patron. On n'est pas habitué ici à des épisodes aussi chauds et aussi précoces. On n'est pas du tout habitué à ça. Donc, il faut comprendre que ça n'est pas du zèle, c'est simplement l'idée de, comme disait Agnès Buzyn, il y a eu 1500 morts l'année dernière, c'est pas la peine d'en ajouter, sinon c'est inutile.
Je poursuis le tour de table avec vous. Justement, vous citez la ministre de la Santé. Écoutez ce qu'elle a dit au sortir du Conseil des ministres.
En réalité, moi, tant qu'il y aura des morts inutiles liées à la canicule, je continuerai à délivrer ces messages de prévention. Je comprends que certains estiment qu'ils les ont déjà entendus. Tant mieux pour eux. Si ces messages sont inutiles, c'est qu'ils les connaissent. Mais je souhaiterais évidemment qu'il n'y ait aucun décès supplémentaire cette année. Et je m'y emploie par ces messages.
Fatima Elouazdi, c'est un petit peu, je ne veux pas en faire trop, mais je ne veux pas qu'on me reproche de ne pas en avoir fait assez.
Je souscris totalement au propos d'Agnès Buzyn. Et j'estime qu'on n'est pas tous égaux dans l'accès à l'information, et que de fait, les personnes âgées, les personnes reculées, les gens qui n'ont pas accès à l'information comme vous et moi, qui n'ont pas des alertes Twitter, des notifications push toute la journée et qui sont pas informées, elles ont le droit d'information, et je préfère avoir un gouvernement qui fait de ce sujet-là et qui veut faire de la prévention et éviter des morts inutiles, comme l'a dit la ministre, et donc insister, quitte à ce soit l'overdose pour certaines personnes, et tant pis pour elles, mais en l'occurrence je préfère que ce soit l'overdose pour elles, pour que l'information arrive à descendre à une maille de population la plus fine possible.
C'est marrant que vous citiez la surdose. Hein. Philippe Moreau-Chevrolet, est-ce que trop d'informations techniques, pratiques, tuent l'information?
Alors non, c'est juste qu'on est, il faut qu'on se rende compte qu'on change aussi de paysage politique. On a une classe politique qui s'adresse aujourd'hui à des seniors. Pourquoi ? Parce que les seniors votent et que les seniors deviennent de plus en plus nombreux. Donc ils ont un poids de plus en plus important sur la politique française. Donc ce principe de précaution qui déplaît à notre camarade du Figaro, il ne fera que s'accroître parce que il ne fera
l'exagération du principe de précaution.
Il ne fera que s'accroître parce que la population vieillit, la population est dans ses préoccupations de santé et ça devient une préoccupation majeure dans la population française. Et en plus, on s'adresse à un gouvernement dont la base repose sur les seniors. Donc c'est le gouvernement des seniors, c'est le président des seniors, le premier ministre des seniors. Donc on est face à des gens qui ont tout intérêt à le faire. Ils surjouent, d'accord, mais pour rassurer une personne âgée, parfois il faut en faire beaucoup.
Donc ce sont des messages de santé publique, mais également cœur de cible en
cœur de cible. On est dans du cœur de cible. En même temps, c'est très utile. On peut pas leur reprocher de vouloir empêcher des morts. Hein, ça c'est
l'argument.
Tous en même temps. Yasmina Jaffar. Sécurité routière, ça va avec tout.
Voilà, c'est ça. Attendez.
Yasmina Jaffar.
C'est très juste. Il y a un vrai consensus sur cette idée, sinon automatiquement on paraît être climato-sceptique et on se dit mais pourquoi est-ce qu'on souhaite plus de morts ? Et il y a aussi une volonté de la part du gouvernement de ne surtout pas avoir un scandale avant l'été. Ça serait dommage parce que ça s'est bien passé, le grand débat, le sondage remonté, ça s'est bien passé, les européennes finalement, les retraités ont voté, etc. Donc ça s'est, tout s'est bien passé pour le président de la République et il est à plus 3%, Édouard Philippe à plus 4%, donc c'est pas le moment de faire une erreur de communication.
Disons que ça aurait pu plus mal se passer. Albert Zénou, parmi les messages martelés par Agnès Buzyn, j'ai noté, il va falloir, dit-elle, la ministre, qu'on s'habitue à ces épisodes caniculaires, ils risquent d'être plus nombreux. Les pouvoirs publics, le gouvernement, enfin les décideurs, sont-ils en train d'acter la réalité du dérèglement climatique ?
Je crois que ça fait pas mal de temps qu'ils l'ont acté. Est-ce que ça sera...
C'est le discours public,
en tous les cas, qu'ils s'en parlent. Est-ce que ce sera concrètement dans les faits, si on est écologiste et...
Mais est-ce que les décisions vont suivre, grosso modo, c'est ça que vous dites ?
Oui. Ça, c'est... je pense que si on s'appelle Nicolas Hulot, je pense qu'on pense que c'est passé. Et puis, et d'autres pensent que c'est le chemin qui est tracé. Je pense que là, la prise de conscience est réelle, aussi bien du côté du gouvernement que même des oppositions. Aujourd'hui, on l'a bien vu dans les européennes, il y avait... Tous les grands partis, toutes les têtes de liste avaient qu'un mot à la bouche, c'était l'écologie. Donc il y a une prise de conscience générale qui est faite. Est-ce qu'elle sera traduite dans les faits ? Je pense, mais
Fatima Elouazi, ça va prendre plus de temps que prévu. Le climato-scepticisme, c'est comme ça qu'on dit, hein, je crois.
Est-ce qu'au
fond, c'est une prise de position qui aurait tendance à s'effacer aujourd'hui ?
Pas du tout, c'est une position réactionnaire. Et on n'a qu'à voir Donald Trump aux États-Unis qui montre que qu'être climato-sceptique, ça paye de façon électorale.
Allez, 20h40 sur France Info. Le rappel à présent de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
C'est absolument urgent de mettre un terme aux propos haineux sur Internet, souligne aujourd'hui sur France Info Cédric O. Le secrétaire d'État au numérique réagissait à cette décision de Facebook. Le réseau social accepte de fournir à la justice française les adresses de connexion d'utilisateurs qui ont pu tenir sur son site un discours de haine. Trois individus, dont deux mineurs de 14 et 15 ans, devraient être mis en examen dans la soirée à Nancy. On les soupçonne d'avoir roué de coups un homme dimanche soir à la gare. Le pronostic vital de la victime est engagé. Après examen des images de vidéosurveillance, la justice estime qu'il y a suffisamment de charges contre les suspects. Alors que la canicule frappe la France, plusieurs villes vont appliquer une circulation différenciée des véhicules compte tenu de la pollution. Pour Paris, Lyon et Villeurbanne, ce sera dès demain. Pour Strasbourg, la mise en place se fera ce jeudi dans la capitale et c'est nouveau. Seules les voitures munies de vignettes critères de 0 à 2 pourront rouler. Le conseiller gendre du président américain Jared Kushner appelle les Palestiniens à saisir ce qu'il qualifie d'occasion du siècle. Il participe en ce moment à Bahreïn à une conférence pour mettre sur pied une paix durable au Proche-Orient. Boudé par les Palestiniens, ce rendez-vous est consacré au volet économique du dossier. L'Amérique assure que l'aspect politique suivra.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est une douche froide en pleine canicule. La Cour des comptes, dans son rapport annuel sur les perspectives des finances publiques, estime que la France ne pourra pas atteindre son objectif en matière de déficit public. En cause, les 17 milliards de dépenses et de baisses d'impôts consenties après la crise des Gilets jaunes. La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a tenté de relativiser le problème lors du point de presse après le Conseil des ministres.
Nous partageons évidemment avec la Cour des comptes cette préoccupation d'une maîtrise des comptes publics et d'une maîtrise de l'évolution de la dépense publique. Nous sommes actuellement dans la phase de construction du budget qui se traduira par un projet de loi de finances et un projet de loi de finances de la sécurité sociale à l'automne prochain. Et donc, soyez assurés que nous avons comme boussole la maîtrise de nos dépenses publiques dans le cadre de la préparation de ce budget qui a commencé d'ores et déjà.
Philippe Moreau-Chevrolet, en termes de communication, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là.
Ah oui, c'est compliqué, plus qu'ils ont été élus quand même sur la maîtrise des dépenses publiques. Effectivement, ils ne peuvent pas contredire la préoccupation de la Cour des comptes. Et en même temps, ils ont dû lâcher beaucoup de lest pour se sortir de cette crise. C'est la réalité fiscale. On est toujours dans la même problématique. C'est on est obligé d'avoir les 3% du budget pour convenir aux règles européennes. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, en réalité, pour exécuter des politiques publiques, entre guillemets, nationales. Donc, on se retrouve, quand on le fait, à avoir une vraie contradiction et être surveillé à la fois en interne par la Cour des comptes et par Bruxelles. La marge de manœuvre du gouvernement, c'est extrêmement faible. On estime que 97% du budget français est reconduit d'une année sur l'autre. Ça veut dire qu'en gros, pour faire une politique originale, vous avez 3% de manœuvre. Oui. C'est pas grand-chose.
Yasmina Jaffar, il faut renoncer aux baisses d'impôts.
Là, il y a un principe de réalité qui s'applique. Il y a eu beaucoup de dépenses suite à la crise des Gilets jaunes et un discours autour de la politique fiscale qui a changé du tout au tout du début du mandat jusqu'à maintenant. On se rappelle que le président avait dit lors de ses différentes allocutions « les producteurs font le gâteau » avec cette espèce de ton comme ça très certain. Et puis, il y a quelques jours, il était à Marseille au Pôle emploi et il avait totalement changé de ton où c'était plutôt en faveur des démunis et en tout cas du particulier. C'était le tout entreprise, aujourd'hui c'est le tout particulier. Donc il y a un équilibre à faire, le budget c'est l'histoire d'un équilibre. Et il faut aujourd'hui rendre des comptes et l'envie de faire cette volonté, c'était 33%, c'est 33% aujourd'hui et en 2022 le souhait serait 25% je crois. C'est ubuesque en fait aujourd'hui.
Albert Zénou, la Cour des comptes est cruelle. La France, écrit-elle, est loin d'avoir résorbé ses déficits structurels alors que de nombreux voisins européens ont pratiquement atteint l'équilibre. Nous serions des mauvais élèves.
Je crois qu'on est assez mauvais élèves, d'une manière générale. Ce qui est important, ce sont les déficits structurels, ceux qui ne dépendent pas de l'activité économique et d'une année sur l'autre. Donc, on se retrouve avec un gouvernement qui a lâché du lest, effectivement. Il devait peut-être le faire pour plein de raisons, mais il n'empêche, on se retrouve dans une situation où la dette ne cesse d'augmenter, les déficits de se creuser. Et pour autant, il ne faut absolument pas baisser la garde et il faut continuer à baisser le niveau d'imposition qui est encore trop élevé en France. Alors, il n'y a qu'une solution.
C'est quand même une équation quasiment impossible.
Non, c'est la baisse des dépenses. Il n'y a qu'une solution. Si vous augmentez pas les recettes, il faut diminuer les dépenses. Et là, pour l'instant, le gouvernement se prend un peu les pieds dans le tapis puisque il augmente les dépenses. En gros, en diminuant la recette avec des réductions d'impôts. Mais s'il ne réduit pas en face les dépenses de l'État, l'équation, elle est pas une, mais à 20...
C'est une équation impossible.
Équation totalement impossible.
Fatima El-Ouazdi, est-ce que le problème, c'est pas un peu le chéquier, les fameux 17 milliards pour tenter d'apaiser la crise sociale des Gilets jaunes?
Je pense qu'il faut remettre cette année un peu de budget dans un contexte difficile où dans l'urgence, en décembre, on a fait des annonces, en plus d'un plan pauvreté de 8 milliards d'euros, en fait, on a fait des dépenses pour calmer un peu la colère sociale qui est justifiée et justifiable à bien des égards pour des raisons que je ne vais pas énumérer parce qu'on en a fait des heures et des heures de débat ici. En revanche, ce qui est important, c'est de se dire que le gouvernement a fait un geste envers des personnes qui en ont le plus besoin, a proposé des choses, a proposé une prime pour changer sa voiture, a augmenté des aides sociales pour que justement on s'apaise un petit peu, on entre dans une nouvelle ère, on va se dire alors le grand débat il est là.
Vous voulez dire
que
le quinquennat commence aujourd'hui finalement.
On a l'acte 2 du quinquennat. Moi, c'est ce que tous les journalistes appellent l'acte 2 du quinquennat. Voilà, c'est l'acte 2 qui
mais
commence.
Vous n'avez pas la sensation que, quel que soit le président, quinquennat après quinquennat, ça démarre après, en fin de compte. C'est toujours demain qu'on va faire les économies.
Je pense que Emmanuel Macron a quand même hérité d'une situation qui vient aussi de ses prédécesseurs et qu'il fait avec. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, le premier budget, le premier exercice budgétaire, ce n'est pas son budget à lui. Donc il a fait un premier exercice budgétaire
aujourd'hui
en 2017.
Aujourd'hui, c'est son budget.
Il y a eu quand même deux années. Maintenant, à partir du moment où c'est son budget, il en est responsable.
La trajectoire est toujours la même.
Mais après, je pense qu'il faut aussi être réaliste. Et quand les Français descendent dans la rue par centaines de milliers en se disant, en fait, ça va, on fait des mauvais choix fiscaux, on fait des mauvais choix, on n'aide pas les plus pauvres, je suis désolée si on a un président qui se ferme à la colère populaire. Ce n'est pas normal. Donc là aussi, on a eu quelque chose qui a été fait et qui est assumé par le gouvernement. Et bien sûr, ça se traduit dans sa balance à la fin de l'année de façon négative. Et on ne respecte pas la règle d'or.
C'est vrai que la seule solution, c'est la baisse des impôts. On le voit quand l'abandon des 120 000 fonctionnaires, de la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires a été abandonné par Emmanuel Macron. Donc maintenant, on ne sait plus combien on supprimera de fonctionnaires. Là aussi, ça marque, c'est un signe fort que, de toute façon, les dépenses ne baisseront pas.
Philippe Rochevrolet, souvenez-vous, il y a 2 ans, hein, tout rond, c'était en juin 2017, le même Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, avait pondu un rapport vitriol à l'égard de François Hollande, taxant d'insincérité le budget précédent. Il y a un petit côté arroseur arrosé un petit peu aujourd'hui, non? On a l'impression que quelque part, au fond, les pratiques des gouvernements n'ont pas changé.
Emmanuel Macron a essayé de faire différemment. Il a essayé de prendre le front social, de prendre la question sociale de front. Il a essayé de se passer de tous les corps intermédiaires, les élus locaux, les syndicats. Et il a fait sans. Il s'est retrouvé face à un mur parce qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus de médiateurs, et ça concerne y compris la presse, quand on n'a plus de médiateurs, on n'a plus que de la colère contre de la force. Et ça, c'est pas une bonne équation politique. Et le coup a été très fort. Il a appris, on peut estimer qu'on paye la facture d'une courbe d'apprentissage politique. On va espérer que l'expérimentation, l'apprentissage ou le stage, comme on disait sous Hollande, est terminé. Mais dans tous les cas, il y a un coût économique assez fort, que ce soit sous Hollande ou sous Macron.
Yasmina Jaffar, vous pensez que le gouvernement devrait avoir un langage vérité, clair là-dessus, dire bon, ben ça y est, bah, dérape.
Faut assumer le fait qu'il va falloir renoncer à des promesses.
C'est pas le cas, là, ce qu'on a entendu tout à l'heure.
Non, du tout. Parce qu'il a toujours dit qu'il changerait pas de cap. Il va changer simplement la méthode et le ton. Le ton est moins péremptoire et donne un peu moins de leçons. Mais au-delà de ça, il a pas l'intention de changer de cap, même si il renonce à l'impôt sur les très grosses sociétés. Il avait envie que ce pays soit un lieu d'attractivité et aussi que nous puissions baisser notre impôt par rapport à l'Europe parce que il y faut une concurrence logique par rapport aux autres pays. Nous sommes le pays qui taxons le plus. Donc, il y a quelque chose, un ménage ou un équilibre à faire. Encore, c'est vraiment le mot de la journée, équilibre budget, à faire pour que la France puisse s'intégrer dans une Europe globalisée.
Ceci dit, il y a des mesures qui sont prises, notamment la réduction de la rémunération, de l'indemnisation chômage des cadres supérieurs, qui est une sanction, enfin, c'est une mesure extrêmement
quelques milliers de personnes.
Hein. Oui, mais c'est extrêmement lourd pour les personnes concernés, c'est-à-dire qu'ils vont perdre 30% de leur rémunération alors qu'ils ont cotisé à taux plein et à des niveaux extrêmement élevés. C'est une mesure courageuse parce que c'est la base aussi électorale d'En Marche.
Oui, courageuse mais injuste.
Albert Zinou, vous diriez que c'est en même temps une politique de l'offre et de la demande aujourd'hui, les deux?
Oui, il y a les deux. Je pense que on avait reproché à Macron d'avoir un gouvernement assis sur une seule jambe, enfin debout sur une seule jambe, plutôt pro-business.
Toujours deux jambes. Hein.
Et là, toujours. Il fallait une deuxième jambe, la jambe sociale. Donc beaucoup dans sa propre majorité lui réclamaient ça, puisque Emmanuel Macron a la particularité d'avoir une majorité à l'Assemblée qui est quand même plutôt à gauche quand même, plus à gauche qu'à droite, contrairement à son gouvernement.
Et le bonus malus en
est
un autre exemple.
Et donc il y avait une volonté d'ouvrir sur des pratiques et des politiques plus sociales.
Allez, il est à mes côtés et bien campé sur ses deux jambes. Il est 20h50, rappel de l'info avec vous Thomas Bénèche.
65, c'est désormais le nombre de départements français classés en vigilance orange à la canicule. 12 nouveaux ont été ajoutés aujourd'hui, parmi eux le Maine-et-Loire, la Sarthe, la Haute-Garonne ou bien encore les Alpes-Maritimes. Compte tenu de cette météo, la ministre de la Santé appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous les Français. Il n'y a pas d'alarmisme, se défend Agnès Buzyn. Ce sont des périodes qui vont se reproduire, peut-être s'intensifier, dit-elle. Cela en réponse à l'opposition qui accuse le gouvernement d'en faire trop sur cette vague de forte chaleur, notamment avec le report du brevet des collèges. 5 personnes âgées de 19 à 29 ans arrêtées ce matin dans l'Aude. On les soupçonne d'être impliquées dans l'attentat de mars 2017 à Trèbes et Carcassonne. Elles auraient contribué à fournir l'arme avec laquelle le terroriste Radouane Lagdim a tué 4 personnes, dont le gendarme Arnaud Beltrame. L'Italie disputera les quarts de finale du mondial féminin de football. Les Italiennes ont battu la Chine 2-0. Dans 10 minutes maintenant, les Pays-Bas vont affronter le Japon dans le dernier 8e de finale de la compétition.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilini.
Elle n'a pas été exclue, enfin pas encore. Agnès Thil a été auditionnée par la commission des conflits de La République En Marche pour ses prises de position anti-PMA. La députée LAREM de l'Oise était l'invitée du 19-20 politique de France Info. Elle s'est défendue face à Jean-Jérôme Bertolus et Gilles Bernstein.
Beaucoup de mes collègues demandent et mettent même leur présence, leur démission dans la balance, ce qui ressemble beaucoup à du chantage. Donc moi, je ne sais pas. Soit La République En Marche cède à ce chantage, soit ils regardent les faits. Et les faits, il n'y a ni homophobie, ni insulte, ni injure de ma part. Absolument aucune. En revanche, on m'accuse d'homophobie en permanence.
Yasmina Jaffar, vous avez suivi de près hein, les déclarations d'Agnès Thil. Quel est le problème, au fond, avec cette députée? C'est parce qu'elle aurait des positions divergentes?
C'est pas le souci d'avoir des positions divergentes. Sonia Crimi a eu aussi des positions divergentes, mais l'a exposée de façon avec une pensée. Là, il n'y a pas de pensée. Et si elle estime
comment
qu'elle
ça,
est dans
pensée,
la pensée,
vous voulez dire qu'elle n'a pas de structuration mentale ou...
Non, c'est pas ça. C'est que comme elle dit que
elle parle d'un lobby LGBT,
comme elle dit que la démocratie est en danger parce qu'elle n'a pas le droit à sa voix. C'est la manière de dire les choses qui est étonnante. Quand elle dit à Gabriel Attal,
vous voulez dire que c'est plus la forme que le fond.
La forme est incroyable. Alors le fond, elle aura d'avoir les opinions qu'elle a dès qu'elle ne dépasse pas le cadre de la loi. Mais la façon dont elle dit les choses sont incroyables. Tweeter dans son propre camp quand Gabriel Attal parle de son homosexualité, au moins la couleur est annoncée, hashtag biotique, c'est juste extraordinairement au-delà de la maladresse. Mmh. Donc si c'est de la pensée, Heidegger se retourne dans son cerveau. Ça n'est pas ça dans sa tombe. Mmh. Ça n'est pas ça la pensée, ça n'est pas ça participer au débat démocratique. C'est de la provocation.
Ouais. Fatima El-Ouazdi là-dessus
Agnès Thil, c'est... Alors, elle a demandé, en année 2017, elle a demandé l'investiture à un parti pour les législatives, à un parti qui est dans son programme présidentiel, et le président de la République a été élu sur une ligne, je mettrai en œuvre la PMA pour toutes les femmes célibataires, homosexuelles, point. Mmh. Elle a été élue sur ce programme-là.
Donc vous dites qu'elle devrait épouser chacune des décisions prises par la majorité.
Je dis qu'elle a demandé l'investiture à un parti qu'elle a été élue sur un projet présidentiel. On peut avoir des différences dans ce parti-là, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, des personnes, Sonia Crimi parmi tant d'autres, d'autres députés qui ont parfois exprimé des différences sur des projets de loi, sur la loi asile et l'immigration, pour prendre un exemple très concret. Et là, sur le projet de loi de la PMA, on peut être contre la PMA et ne pas l'exprimer d'une façon qui est agressive, qui est personnelle, parce qu'il y a eu l'attaque contre Gabriel Attal, mais il y a aussi un petit peu des petites phrases et des petits tweets qui parlent ici de lobby LGBT, qui sont très tendancieux et qui ne vont pas en fait au niveau de la ligne qu'En Marche porte, qui est celle du progressisme en fait. Et à partir de ce moment-là, elle se met contre les valeurs du parti et donc
ça rappelle les heures les plus sombres du Parti communiste, hein, donc avec des exclusions, les dernières exclusions d'un parti. Les dernières exclusions d'ailleurs remontent à Édouard Philippe et aux ministres qui sont de LR qui sont passés chez Macron. Donc LREM est au défi de son pluralisme interne aujourd'hui. Alors elle l'exprime très mal, elle frise l'homophobie, ça c'est sûr, mais
sortie de route dans ses déclarations.
Personne ne peut le contester.
Mais par-delà le cas personnel de Agnès Thil, vous estimez
je pense qu'il y a un problème aussi interne. Est-ce qu'on a le droit d'exprimer expressions et des positions différentes de celle du parti? Je signale que le groupe LREM à l'Assemblée a décidé de laisser les députés libres de leur vote, hein, donc ils auront la possibilité
c'est
de voter.
C'est la Constitution.
Il peut y avoir des consignes.
Rebondir sur ce que dit Albert Zellou, est-ce que au fond ce débat sur l'extension de la PMA à toutes les femmes aura son débat, si je veux dire, sa discussion et ses oppositions, ou est-ce qu'il y a une forme de pensée unique autour?
Non, il n'y a pas de pensée unique. Agnès Thil, elle est utile pour le gouvernement, parce qu'au fond, c'est un peu l'idiote utile de cette séquence. C'est qu'au fond, le gouvernement a besoin de l'écologie pour essayer de garder ses électeurs qui sont partis chez Yannick Jadot. Il a besoin de redonner un coup à gauche pour marquer son progressisme, qu'on vient de le dire. Il est accusé d'être de droite. Il tient quand même à démentir cette accusation. Donc, ce débat vient à pic, on peut dire. Par ailleurs, c'est vrai que c'était une promesse de campagne. Donc, tout ça est quand même assez cohérent. Elle vient pour rappeler finalement finalement, BAC, elle est quand même très isolée, elle est quand même très seule. Donc ça redonne à LREM un coup de modernité, un coup de jeune, un coup de progressisme, quelque chose dont il avait besoin. Elle sera probablement exclue parce qu'elle est incontrôlable et que ça reste un parti LREM. Et un parti, ça exclut des membres qui ne sont pas dans la ligne. Parce que la ligne, il y en a toujours un dans un parti.
Et c'est, le, mot, c'est le mot de la fin avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet. Allez, Albert Zénou, la une du Figaro, demain.
Sur l'islamisme dans les services publics, nous avons publié un rapport au choc.
Oui, c'est le rapport choc qui est prévu demain.
Oui.
Hein, absolument, à découvrir dans le Figaro. Avec vous, Fatima El-Ouazdi. Yasmina Jaffar.
C'est pas grave.
En plus, vous êtes là toutes les semaines, donc il n'y a pas de doute possible.
Albert Zénou,
je commence à être un peu fatigué. Non, non, fumer du chapeau.
Pas de problème, c'est la chaleur, c'est la chaleur. Non, la Ruche Média parlera de la canicule et on se posera exactement cette question de savoir si les médias et les politiques en font trop.
Et merci à vous, Fatima El-Ouazdi, d'être revenue ce soir participer aux Informés de France Info. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une toute prochaine édition. Merci, bonne soirée.